France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'aventure peu glorieuse d'un glorieux personnage, André Malraux. Un Malraux qui n'est pas encore celui de la condition humaine, des maisons de la culture ou du « entre ici Jean Moulin » avec cette scansion caricaturale d'un tragédien de la Grèce antique, non. Ce Malraux-là, à la vingtaine, c'est un tout jeune homme, il entame à peine son parcours d'écrivain et n'a absolument rien à voir avec la politique. Mais il fait déjà parler de lui, et pas de la meilleure des façons. Durant les années 20, il se rend en Indochine avec sa femme et un ami pour faire main basse sur les statues d'un temple cambodgien. Le but est clair, revendre ses œuvres très cotées sur le marché de l'art à des collectionneurs fortunés. Un pillage qui ne passe pas inaperçu et qui lui vaut bien des problèmes avec l'administration coloniale. Procès, condamnation, autant de déboires judiciaires qui auraient pu entraver la carrière d'intellectuel en puissance de cet homme, mais nul besoin d'être un honnête homme quand on a de l'ambition et du talent. C'est en tout cas ce que cette histoire semble nous raconter. Car Malraux obtient le soutien du monde littéraire parisien et il saura tirer parti de cette aventure pour bâtir sa trajectoire. Notre invité aujourd'hui, Pierre Baptiste, conservateur en chef au Musée des Arts Asiatiques Guimet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct et aujourd'hui en partenariat avec le site Retro News de la BNF. Récit documentaire Margot Butch, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
En ce mois de juillet 1924, une chaleur étouffante enveloppe Phnom Penh, capitale du protectorat français du Cambodge. Dans la grande salle du tribunal correctionnel, on transpire, en particulier les deux accusés qui attendent leur jugement. Ils sont blancs, ils sont jeunes, ils sont complices dans une affaire rocambolesque qui a défrayé la chronique. L'un des deux est petit, fallot, il a la tête baissée. On en oublierait presque sa présence et son nom. Louis Chevasson, en l'occurrence. Car c'est plutôt vers celui que le journal L'Impartial décrit comme un grand garçon maigre, pâle, au visage imberbe, éclairé par deux yeux d'une extrême vivacité que convergent tous les regards. Il faut dire qu'il s'est fait remarquer au cours du procès. Son avocat lui avait pourtant dit de faire profil bas, de jouer l'idiot. Surtout, ne pas passer pour le cerveau du duo. Mais il s'est défendu bec et ongle avec virulence, éloquence, attirant sur lui toute l'attention. Personne ne le sait encore, mais ce jeune homme, un certain André Malraux, deviendra quelques décennies plus tard une référence bien connue en matière de discours. Pour l'heure, il est un prévenu de 23 ans qui s'apprête à recevoir un jugement. Le juge Jodin s'éclaircit la gorge et le couperet tombe. 3 ans de prison ferme pour le tempétueux Malraux, 2 fois plus que pour le discret Chevasson qui occupe lui de 18 mois. Maintenant, que reproche-t-on à ce duo mal assorti? Eh bien, un acte commis quelques mois plus tôt dans les profondeurs de la jungle, dans la province de Siem Reap. C'est à Bantay Srai, temple abandonné situé à quelques encablures de la mythique Angkor, que Malraux et Chevasson ont décroché des bas-reliefs ancestraux et les ont placés dans des caisses avant de déguerpir. Ils n'ont pas tardé à être inculpés de pillage de monuments. Alors, pour comprendre comment l'idée de ce larcin saugrenu a germé dans l'esprit d'André Malraux, car c'est lui qui en est à l'initiative, il faut se pencher sur la jeunesse du personnage. Pas simple, comme l'écrit le diplomate et homme de lettres Pierre de Boisdieff.
Longtemps, la biographie de Malraux est restée obscure. Non du fait de ses biographes, mais par la volonté du modèle qui avait déclaré une fois pour toutes « je ne m'intéresse pas ». Depuis, le voile de brume a commencé à se dissiper. Le long, le pathétique effort de Malraux pour remplacer ses origines par le drapé d'une légende obstinément brandie comme un salut. Le seul que puisse atteindre l'homme sans Dieu apparaît maintenant dans sa nudité. Il aurait voulu que les siens fussent des demi-dieux alors qu'ils n'avaient été que des hommes. La vérité, c'est qu'il était parti de loin, d'une réalité médiocre qu'il avait délibérément refoulée, dont il ne voulait plus entendre parler.
André Malraux, né à l'aube du XXe siècle dans une famille dans laquelle il ne se reconnaît pas. Une mère épicière abondie et un père évoluant dans le secteur bancaire, mais vivant volontiers d'expédients. deux parents divorcés, au profil trop peu brillant pour un Malraux qui aspire à plus de grandeur, d'exceptionnel. C'est dans la littérature que ce jeune homme précoce entend bien se faire un nom. Très vite, il abandonne ses études secondaires et se jette dans l'écriture d'essais, de critiques et de prose influencés par le surréalisme. Le milieu dans lequel il évolue, la littérature d'avant-garde, où il attire l'attention de Max Jacob, à qui il dédie son premier petit livre, Lune en papier. Petite consécration, on demande à ce brillant autodidacte de gérer une revue littéraire. En rencontrant Clara Goldsmith à une soirée organisée par la revue Action, Malraux semble avoir trouvé la solution à sa précarité financière. Clara est la compagne idéale. Vive, cultivée, passionnée de philosophie, polyglotte et habile traductrice. Et surtout, c'est une riche héritière qui peut offrir à son cher et tendre le train de vie auquel il aspire. Malraux ne tarde pas à l'épouser en 1921 et à s'installer à la villa des Goldsmiths. Le couple écume l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Tunisie, la Grèce, où il se délecte d'art et mène une existence libre, luxueuse, à la fois oisive et créative. Pour financer ses plaisirs, eh bien André Malraux boursicote, gère les actions de sa femme, jusqu'à ce que le cours des mines d'or mexicaines dans lequel il a placé l'argent du ménage s'effondre. Résultat, le couple est ruiné, fini la belle vie. Alors Clara s'inquiète, on la comprend, et comme elle le raconte au micro de France Culture.
Je lui ai dit « qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il m'a répondu, mais avec le plus grand calme, avec une sorte d'évidence qui a fait que j'ai trouvé aussi la phrase absolument raisonnable. Il m'a répondu, vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler. Mais en effet, il ne me semblait pas que c'était ce qu'il pouvait faire. C'est vrai, il fallait tout de même que nous sortions de cette histoire-là. Alors je lui ai dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Et il m'a dit avec la plus grande simplicité, la route royale qui va d'Angkor au Siam, à travers les Denrèques. Les Denrèques, ce sont de grandes montagnes. Nous allons aller Angkor, nous prendrons cette route, nous trouverons l'équivalent d'une petite chapelle, nous prendrons les statues et nous les rapporterons en France ou nous les enverrons en Amérique et nous deviendrons très riches. Au moins assez riches pour vivre comme nous venons de le faire, agréablement, pendant 2 ou 3 ans.
Quoi ? Occuper un emploi, pointer dans une entreprise, respecter les horaires, voilà bien une perspective inconcevable pour André Malraux. Ce qui est d'ailleurs le postulat du voyou moyen. Non, se lancer dans le trafic d'œuvres d'art pour se renflouer est une solution autrement plus séduisante et excitante. Il faut dire que le jeune Malraux a la bosse du marché d'art. Avant de rencontrer Clara, il a gagné sa croûte en revendant à un libraire des livres rares, dégotés au gré de ses chineries dans Paris. Malraux a l'œil et le bon pour l'art de toutes les régions du monde et de toutes les époques. Et il se fait volontiers l'intermédiaire avec les collectionneurs. Alors, pourquoi ne pas s'improviser chercheur d'art à l'autre bout du globe? Ne serait-ce pas là un moyen de vivre enfin une grande aventure? Aussitôt, il pense à l'Indochine comme terrain de chasse, et plus précisément au protectorat du Cambodge. C'est au sein de cette colonie française que se situe la grande capitale de l'empire médiéval Khmer, fourmillante d'aménagements hydrauliques et de temples en ruine, encore, et évidemment, une usine à rêve, et surtout un réservoir inépuisable de sculptures. Depuis que la cité a été abandonnée par ses occupants vers le 15e siècle, la forêt cambodgienne a repris ses droits sur les bas-reliefs qui recouvrent les murs des édifices de grès, comme le raconte un promeneur sur les RTF.
Là, les lianes géantes, les fromagers aux troncs énormes montent à l'assaut des portiques, soulèvent les statues, disloquent les frontons, se referment comme des bras sur des colosses de pierre. Mais quelquefois, la pierre se venge et j'ai vu des arbres géants déracinés, suspendus dans le vide, pourrir comme d'immenses cadavres soutenus par des fûts de colonnes.
Depuis le 19e siècle, de nombreuses statues figurant des divinités hindouistes ont été prélevées. Terme scientifique pour décrocher de leur support, prélevés par les puissances coloniales. Certaines s'échangent sous le manteau, d'autres enrichissent les salles des musées de Phnom Penh et d'ailleurs. Combien de fois André et Clara ont-ils admiré ces merveilles en se promenant dans les allées du musée indochinois du Trocadéro ou du musée Guimet de Paris? Malraux le sait, les statues Khmer sont à la mode et s'envolent à prix d'or. 200 000 francs pour une sculpture de déesse dansante, lui indique Paul Cassirer, marchand d'art que le jeune homme est venu consulter. Alors c'est décidé, à ce tarif-là, Malraux, qui a pris contact avec des collectionneurs américains par l'entreprise du célèbre galériste Kahnweiler, ira dépouiller un temple cambodgien de ses oripeaux. Bien. Mais comment évoluer librement au milieu des vestiges archéologiques? En simple touriste? Non, bien sûr. Non, en se faisant passer pour un archéologue, évidemment. Et voilà qu'entre en scène Malraux le mythomane. Il se présente au ministère des colonies afin d'obtenir l'autorisation de réaliser des fouilles dans le coin d'Angkor. Il a des connaissances en art d'Extrême-Orient et il se prévaut d'une information qu'il n'a pas suivie. Comme certains grands menteurs, il a le bagou et l'érudition pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Enfin, jusqu'à un certain point, on le verra plus tard. Mais pour l'instant, ça marche. La commission, peu regardante, lui accorde une mission archéologique, à condition qu'il la finance lui-même et qu'il réalise des moulages et des sculptures observées sur place. Ah oui, hors de question de rapporter les vrais à la maison. C'est donc avec sa femme et sur les deniers de son père qu'il embarque le 13 octobre 1923 vers le protectorat français du Cambodge. Clara Malraux raconte cette traversée dans ses mémoires.
Comme la mer, le bateau a plutôt été une déception. On m'avait parlé de ville, je me trouvais dans un hôtel, assez grand d'ailleurs pour que je m'y perde. L'Angkor, il s'appelait ainsi, d'un nom pour nous comme prédestiné. Sa clientèle montrait peu de variété, fonctionnaires et officiers supérieurs, puisque nous voyagions en première. Le départ eut lieu d'un vendredi 13. Je n'ai pas cette superstition-là, ce qui n'est pas sans mérite étant donné ce qui advient. Nous étions chargés de missions, subventionnées par nous-mêmes, les autres l'ignoraient. Le capitaine, un soir, nous invita même à sa table.
Eh oui, les passagers n'y voient que du feu. André Malraux leur semble un jeune archéologue prometteur. C'est une fois arrivé au Cambodge que les choses commencent à se corser pour le couple. Monsieur et madame ont réussi à berner les ronds de cuir parisiens de Paris, mais ils éveillent rapidement les soupçons des gens de terrain. Depuis que la province de Siem Reap a été rétrocédée à la France en 1907, l'éblouissant site d'Angkor est devenu un outil de soft power et une vitrine de l'action culturelle de la France en Indochine. L'enjeu est donc de taille pour l'école française d'Extrême-Orient qui a la charge de ces vestiges. Il s'agit d'inventorier, de sauvegarder, de surveiller, voire même de restaurer ce patrimoine inestimable et en péril. Une bonne manière de soustraire pour de bon la région à l'influence du Siam, placée sous tutelle britannique. Un des défis est d'endiguer au maximum les pillages qui, on l'a dit, sont monnaie courante encore, malgré la législation sur la conservation des biens culturels. C'est à Georges Grolier qu'on a confié cette mission de cerbère du site. Ce Français, né dans la colonie, spécialiste de l'art khmer, prend sa mission d'inspecteur très au sérieux. Et loin de se laisser séduire par ce bouillonnant Malraux qui n'en finit pas d'étaler sa science, Grolier va l'avoir tout de suite dans le collimateur. Il écrit dans un rapport.
L'impression que m'avait produite M. Malraux avait été défavorable. Il se montra trop au courant de l'art khmer envisagé par un antiquaire, notamment des têtes khmer de provenance mystérieuse mises en vente chez Bing, rue Saint-Georges à Paris, à des prix fabuleux.
De la graine de trafiquant Malraux? Possible. Mais que serait un truand sans son complice? Au Cambodge, André et Clara retrouvent Louis Chevasson, ami d'enfance d'André, venu prêter main forte au couple. Pour mener à bien une entreprise aussi physique qu'un vol de statue, il faut bien une paire de bras supplémentaires. Pour décrire ce Chevasson, on retient le surnom assez peu charitable dont l'a fublé Clara Malraux, l'incolore, rapport à son effacement. Effectivement, pas de charisme, mais de la fidélité et du dénouement à l'égard d'André Malraux, qu'il a accepté de suivre, littéralement, au bout du monde. Aux côtés du prétendu archéologue, la présence de ce vassal interroge tout de même. Chevasson n'est pas incolore au point d'être complètement invisible. Et le couple Malraux ne s'est pas donné la peine d'inventer un mensonge crédible à sa venue au Cambodge. Erreur. Arrivé à Siem Reap, village qui sert de porte d'entrée au temple de la région d'Angkor, les compères racontent à qui veut les entendre qu'ils se sont retrouvés là par hasard. Ah, il faut les voir rejouer la scène à la micro-société de fonctionnaires, de commerçants et de planteurs de la colonie. Ciel, mon ami, vous ici, que le monde est petit. Mais l'histoire amuse plutôt qu'elle ne convainc. Lorsqu'on les aperçoit au marché en train de s'équiper en pioches, pics, ciseaux, cordes et pelles, les soupçons sont ravivés. Voilà bien un attirail de forçat pour une mission archéologique qui demande un doigté d'orfèvre, au contraire. Ne manquez les cigognes qu'ils ont déjà d'ailleurs dans leur bagage. Et peut-être même des explosifs. Ah, décidément, ces trois-là sont louches. Mais bon, ils ont obtenu l'aval du ministère des colonies, alors on les laisse vaquer à leurs occupations. Mais Aurelier, qui multiplie les échanges de renseignements avec les autorités et la police du coin, les a à l'œil. Et il rappelle au trio une règle essentielle qu'il pourrait être tenté d'oublier, sait-on jamais. Il est formellement interdit de prélever les objets répertoriés sur les sites fouillés, comme le déclare un décret sur la protection des vestiges. Mais qui vient d'être signé par le gouverneur général de l'Indochine.
C'est un bâtiment gris au pied du Phnom. Lorsqu'on y va la nuit, croit frôler des ombres. Mais plus loin vers le fleuve, quelques enfants Saramani, bien sûr. Que l'on vient voir aussi, que l'on vient voir de près, même si l'on s'ennuie. Alors on pense à lui. C'était là qu'il était, comme un nageur, dans le bassin, où il nageur, jusqu'à ce temple en ruine. Mais tout ne l'est-il pas? Mais tout ne l'est-il pas? Cage d'osier, que pour quelques rielles, on verra s'échapper, s'envoler vers le ciel. Alors on pense à ça, alors on pense à lui, que tout était comme ça. Changé depuis, comme un nageur, nageur, dans le bassin, bassin, où il nageur, jusqu'à ce temple en ruine.
Aujourd'hui, Malraux, pilleur de temple Khmer.
France Inter. Affaires sensibles.
C'est avec la ferme intention de rapporter de nombreux souvenirs de leur prétendue mission archéologique que les Malraux et Chevasson s'enfoncent dans la brousse un beau matin de décembre 1923. Le tableau est pour le moins pittoresque. Tous trois sont casqués, vêtus d'écrus, tels de parfaits petits colons virés. Ils sont juchés sur des chevaux si minuscules que leurs jambes balaient le sol. On dirait Don Quichotte et Sancho Panza. Pour les escorter dans la jungle inhospitalière, ils sont accompagnés de plusieurs guides et porteurs cambodgiens, qu'on appelle vulgairement coulis, et de chariots tirés par des buffles. Au terme de nombreuses heures de voyage, passées à éviter les araignées, les moustiques et à marcher au rythme des chariots tractés par des buffles, l'équipée arrive enfin au temple de Bantai Srai. Cet édifice, composé de trois tours sanctuaires, situé à 20 km d'Angkor, André Malraux l'a choisi sur catalogue. C'est en épluchant le bulletin de l'école française d'Extrême-Orient que le jeune homme a appris l'existence de cette petite merveille du Xe siècle dédiée au dieu Shiva et débordante de décors sculptés. Pour le jeune homme, Bantai Srai, un avantage certain, il reste jusqu'ici relativement inexploré. Clara Malraux se remémore sa rencontre avec le temple au micro du Grand Amphi en 1971.
Il était d'une beauté suffocante et il était dans une matière à laquelle nous attendions pas du tout. Il était un grès rose. Nous sommes approchés, on les a touchés, c'était beau, ces choses vivantes. Et puis ensuite, il a fallu essayer de les détacher. Alors là, c'est devenu complètement saugrenu.
Vous n'étiez pas des spécialistes du vol de...
On était des spécialistes de rien du tout. On n'aurait pas su faire une fouille d'archéologue. On avait l'inspiration. Et l'inspiration, ça a été de détacher les blocs de pierre, ce qui était très fatigant. Puis...
Vous avez participé vous-même ou...
Non, moi je faisais le guet.
Dans le panthéon de l'hindouisme qui s'étale sous leurs yeux, le trio jette son dévolu sur plusieurs danses célestes, séduisantes nymphes qui ont pour nom Apsara et sur un asset brahmique. André Malraux et Louis Chevasson se lancent dans la découpe de ces figures figées dans l'architecture. Mais la tâche est plus ardue que prévu. Les scies se cassent les unes après les autres sur la pierre dure. Alors les deux hommes font levier comme ils peuvent pour décrocher avec maladresse les blocs qui forment les bas-reliefs. Les coulisses cambodgiens, à qui le trio a ordonné de se tenir à l'écart, sont rappelés pour charger les caisses sur les chariots. Et Dieu sait qu'elles sont lourdes, remplies de 7 blocs de pierre, plus d'une tonne de sculptures. À Siem Reap, chacun s'interroge en voyant le trio regagner son bungalow. Comment ça, déjà de retour? Voilà bien une mission archéologique de courte durée. Alors, Clara joue la malade et se déclare frappée par une vilaine dysenterie. Décidément, cette aventure touche au théâtre de boulevard. Bientôt, elle est remise de son mal imaginaire et le trio cherche à quitter le protectorat au plus vite avec le butin. Mais les guides et porteurs cambodgiens ont donné l'alerte. Malraux avait sans doute considéré ces indigènes comme des témoins d'importance négligeable. Funeste erreur, ils avaient été diligentés par Georges Grolier et autres autorités coloniales pour servir, figurez-vous, d'indicateurs. Pendant que de petits pillards sont profondément endormis dans un navire voguant vers Phnom Penh, les policiers viennent toquer à la porte de leur cabine. Contrôle des bagages, monsieur, dame. Dans la lumière de la torche qui balaye le contenu des caisses, se dessinent les pleins et les creux des apsaras de grès. Grolier est appelé pour expertiser les pièces volées. Et la veille de Noël 1923, les Malraux et Chevasson sont mis en état d'arrestation. La chasse au trésor est bel et bien finie, mais que de bévues l'ont émaillée. À quoi attribuer autant de mauvaises estimations? À l'inexpérience? À la naïveté de la jeunesse? Sans doute. Mais aussi à la conviction pour le trio que leurs actes, tout délictueux qu'ils soient, étaient au fond des plus légitimes. Dans le Grand Amphi, Clara Malraux revient précisément sur cette arrestation.
C'était assez inattendu pour nous. Je veux dire que nous avions vraiment très bonne conscience. D'abord, c'était une si jolie idée en soi, c'était vraiment l'aventure. C'était au fond, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, mais ce à quoi aspiraient sous une forme ou sous une autre tous les garçons autour de nous. Et puis, par-dessus le marché, nous savions d'ailleurs très bien, nous n'étions pas restés très longtemps à Saïgon, mais sur le bateau déjà, il n'y avait pas un fonctionnaire français qui ne possédât des statuts Khmer. Or, comme la vente en était interdite, il fallait bien qu'ils se soient procurés d'une façon irrégulière.
Tout le monde le fait, pourquoi pas nous? Voilà qui est bien décomplexé. Mais l'administration coloniale ne l'entend pas de cette oreille et veut faire un exemple. Elle inculpe André Malraux et Louis Chevasson pour bris d'un monument et détournement de bas-reliefs dérobés. Clara, elle, bénéficie d'un non-lieu. On considère qu'elle n'a fait, selon le droit français transpirant de patriarcat, que suivre son mari, ce qui est après tout le devoir d'une bonne épouse. Si les accusés avaient été cambodgiens, nul doute qu'ils auraient été incarcérés. Mais eux sont des blancs, et c'est dans un hôtel de Phnom Penh, au bord du Mekong, que les Malraux prennent leur quartier en attendant leur procès. Bon, il leur a quand même interdit de quitter la ville. Alors ils pestent contre l'administration coloniale, s'estimant victimes d'une injustice, au point de se découvrir une solidarité avec le peuple colonisé, dont ils semblent soudainement découvrir la dureté des conditions de vie. Tout cela, simplement, en se promenant dans les rues des quartiers populaires. Une prise de conscience qui fondera l'engagement à venir d'un Malraux jusqu'alors complètement apolitique. Le 16 juillet 1924 marque l'ouverture du procès Malraux-Chevasson. Le duo se présente au tribunal correctionnel de Phnom Penh avec une stratégie inattendue. Chevasson prendra tout sur lui. L'idée étant que Malraux soit rapidement mis hors de cause et qu'il puisse mobiliser ses réseaux une fois en France pour libérer son ami. Décidément, cet incolore est bien dévoué. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Malraux s'est endossé de nombreux rôles, mais pas celui du suiveur ou de l'idiot. Non, il a une trop haute image de lui-même. Alors à la barre, il occupe le terrain, justifiant son vol avec panache. Par son acte héroïque, ne s'est-il pas fait le sauveteur de bas-reliefs en détresse que la jungle invasive condamnait à la destruction d'ailleurs? Il n'a en aucun cas arraché ses sculptures, elles étaient déjà décrochées du mur, affabule-t-il. Il a la parole facile et se défend avec une âpreté qui décèle d'incontestables qualités d'énergie et de ténacité, reconnaît l'impartial, journal pourtant à la botte du pouvoir colonial et franchement hostile à Malraux. Quoi qu'il en soit, et malgré cette verve de l'accusé, l'accusation tient un bon. Les témoins à charge défilent. La préméditation n'est pas difficile à prouver. Et les renseignements recueillis durant l'instruction auprès de la police parisienne ne jouent certainement pas en faveur de Malraux. Sa fréquentation des revues d'avant-garde, ses accointances avec des juifs émigrés, le galériste Kahnweiler en tête, son mariage avec une israélite, autant d'éléments à même de faire de Malraux de la graine d'anarchiste aux yeux d'une colonie conservatrice et volontiers antisémite des années 20. Le 21 juillet 1924, le jugement tombe. 3 ans ferme, oui, ferme, pour Malraux. 5 ans d'interdiction de séjour et 1 an et demi pour Chevasson. Leur culpabilité est évidente, mais c'est là une bien lourde peine pour 2 jeunes gens sans casier judiciaire. En France métropolitaine, on apprend la nouvelle par télégramme. Loin de s'en émouvoir, la presse dresse avec une certaine gourmandise le portrait d'un écrivain noceur devenu aventurier escroc. Dans les colonnes de l'œuvre, on peut lire.
André Malraux, âgé de 23 ans, habitait à Passy, 20 rue des Chalets, un superbe appartement. Auteur d'un roman Lune de papier, il fréquentait les répétitions générales, les restaurants à la mode et les antiquaires. C'est ce qui le perdit. Les restaurants et le théâtre coûtent cher. Malraux ne jouissait pas, comme romancier, d'une réputation qui lui permit de vendre assez de lunes de papier pour subvenir à ses besoins. Alors, il se souvint qu'il avait des amis antiquaires.
C'est du monde des lettres qu'il va recevoir du soutien. Et cela, en grande partie grâce à sa femme qui a regagné Paris. Elle était censée témoigner au procès, mais son état de santé a été jugé incompatible avec un maintien en Indochine. Il faut dire qu'elle a simulé une tentative de suicide à coups de barbiturique et a entamé une grève de la faim. À Paris, elle se démène pour rassembler le monde intellectuel autour de la défense de son mari, qui, comme Louis Chevasson, a fait appel de sa condamnation. Alors, avec son bâton de pèlerin, elle va taper aux portes. Elle se présente à celle d'André Breton, et il l'émeut en lui contant l'histoire de cet aspirant écrivain, vous comprenez, victime d'un système judiciaire réactionnaire. André Gide, François Mauriac, Louis Aragon, Max Jacob lui emboîtent le pas. Et tout ce beau monde, qu'il l'ait croisé ou pas, joint sa signature et de pétitions publiées dans les Nouvelles littéraires.
Les sous-signés, émus de la condamnation qui frappe André Malraux, ont confiance dans les égards que la justice a coutume de témoigner à tous ceux qui contribuent à augmenter le patrimoine intellectuel de notre pays. Ils tiennent à se porter garant de l'intelligence et de la réelle valeur littéraire de cette personnalité, dont la jeunesse et l'œuvre déjà réalisée permettent de très grands espoirs. Ils déploreraient vivement la perte résultant de l'application d'une sanction qui empêcherait André Malraux d'accomplir ce que tous étaient en droit d'attendre de lui.
Dans l'esprit de ce petit milieu, c'est au nom d'une grande œuvre à bâtir que Malraux devrait bénéficier de la bienveillance des juges. On connaît l'éternelle histoire du talent élevé en passe-droit. Au Cambodge, Malraux se réjouit de voir ainsi soutenu et reconnu par ses pairs. Ne manque que la signature d'Anatole France, qu'il ajoute lui-même à la liste. C'est donc avec une confiance nouvelle que Malraux et Chevasson se présentent en appel en octobre 1924. Nouveaux garants, nouveaux juges, nouveaux avocats, les cartes sont bel et bien rebattues. Maître Béziat, qui défend Malraux, est un habile jouteur. Et il a bien préparé son argumentaire. Il a repéré un problème de droit en particulier. 2 temples ont pu être confondus. Celui de Bantay Srai était-il classé ou ne l'était-il pas? Voilà qui apporte un flou juridique sur le dossier qui ne fait pas l'affaire de l'accusation. Ne reste plus qu'à plaider la magnanimité de ces deux jeunes gens inexpérimentés et faire valoir que ce qu'ils ont commis, eh bien d'autres l'ont commis avant eux sans avoir été punis. Écoutons ce qu'en dit Maître Gallois-Montbrun, avocat de Louis Chevasson, relayé par l'Écho Anamite.
Si on poursuit Malraux et Chevasson pour cette peccadille, que n'a-t-on poursuivi et condamné avant eux des amiraux, des résidents supérieurs et d'autres mandarins d'égale importance, entendez, grands seigneurs de la Troisième République, pour des déprédations autrement graves, commises au détriment des mêmes monuments? On a bien, après tout, dans un passé très récent, arrangé à l'amiable d'autres affaires du même genre, alors qu'il s'agissait de rapts plus conséquents que ceux qu'on reproche à mon client. Il paraît en effet que récemment, un officier supérieur a commis le même délit, mais que l'affaire a été étouffée.
Voilà des plaidoiries qui font mouche. Les peines du duo sont réduites à du sursis. Le 1er novembre 1924, Malraux et Chevasson embarquent pour la France, libre. Malraux pourrait s'estimer satisfait de son sort, mais il ne l'est pas vraiment. Non, de retour sur le sol français, il se pourvoit en cassation pour obtenir la restitution des statuts khmers dérobés dont il s'estime le découvreur. Bon, on lui refuse, et ses sculptures seront réintégrées au temple de Mantes-Rai, qui connaîtra un bel épilogue. Il sera restauré peu après le passage de Malraux. Voilà, cette histoire aurait pu jeter une tache indélébile sur la carrière naissante du jeune homme. Il n'en est rien. Toujours savoir rebondir. C'est peut-être finalement à cela que l'on reconnaît les véritables aventuriers. Certains, tel Louis Chevasson, seraient retournés à leur discrétion. Mais pas Malraux, vous vous en doutez. Je ne peux pas rester sur un échec, ne cesse-t-il de répéter. D'ailleurs, il a un nouveau projet. Fini l'oisiveté. Il repart en février 1925 en Indochine, direction Saïgon, pour créer un journal. Et pas n'importe lequel. Un journal d'opposition et de rapprochement entre Français et autochtones. L'Indochine enchaînait. Pour Malraux, voilà bien là une manière de mettre en œuvre ses nouvelles convictions, qui, sans être anticolonialistes, sont tout au moins critiques à l'égard du système colonial en place. Et surtout, de se venger d'une administration avec qui il a eu maille à partir. C'est avec Paul Monin, avocat plaidant régulièrement et gratuitement la cause des personnes indigènes, qu'il dirige cet organe de presse. Pendant plusieurs mois, l'Indochine enchaînée est un organe de combat qui frappe avec virulence les pouvoirs en place, leur corruption, leur injustice, jusqu'à ce que Malraux ne se lasse et retourne en France à ses premiers amours, la littérature. En cela, il ne décevra pas les espoirs placés en lui par ses bienveillants signataires. Non, il écrira beaucoup, notamment La Voix royale, où il romancera son aventure cambodgienne, effaçant du récit celle qui en fut, on l'a entendu, le meilleur témoin, sa femme, Clara Malraux. Au cours d'une vie mouvementée où il multipliera les engagements profonds, fugaces, les moments de bravoure et où il construira sa légende à coups de mensonges, il ne perdra jamais le goût de l'art asiatique. Côté face, en inaugurant de grandes expositions en tant que ministre de la Culture sous De Gaulle, côté pile, en continuant à flirter avec le trafic d'art. Dans les années 30, c'est la vente d'œuvres bouddhiques ramenées d'Afghanistan et acquises de manière vraisemblablement douteuse qui assurera son aisance financière. Tout de même, de quoi est faite l'aventure d'un grand homme.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, André Malraux, pilleur de temples. Notre invité, Pierre Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef au Musée national des arts asiatiques Guimet, en charge des arts de l'Asie du Sud-Est depuis 1996. On va parler d'art du Sud-Est, évidemment. Mais d'abord, qu'est-ce que vous inspire cette histoire et le comportement de Malraux?
C'est bon. D'abord, ce sont des retrouvailles, en fait, parce qu'il se trouve que, étant donné ma position, je suis fréquemment amené à être confronté à cette question sensible, parce qu'il se trouve qu'au musée Guimet, nous avons des collections qui proviennent de ce temple. Et il y a un amalgame assez évident qui s'impose aux yeux du public, qui est, bien sûr, les œuvres, les sculptures de Bantaisrei et du musée Guimet sont liées à cette histoire. Mmh. Et en fait, pas du tout, heureusement. ou en tout cas pas directement.
Et c'est-à-dire,
ça, c'est une chance pour nous. Bah parce que en fait, ce que Malraux a fait a eu un certain nombre d'effets positifs. Le premier, c'est que l'école française d'Extrême-Orient va se gendarmer. C'est elle qui a vraiment en charge le patrimoine encore, et elle va mieux organiser la protection du patrimoine sur les sites. D'une part, elle va s'intéresser beaucoup plus aussi à ce temple. Il faut rappeler ici que c'était quand même incroyable que Malraux se soit intéressé à ce petit monument qui était parfaitement inconnu. Il a été évoqué, mentionné dans un entrefilet, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du bulletin de l'école française d'Extrême-Orient. C'est vraiment une espèce de petit ovni, ce monument. Et grâce à cette affaire, l'école française d'Extrême-Orient va non seulement publier une grande monographie, une étude complète sur ce monument, mais surtout, elle va le choisir pour adopter une nouvelle manière de restaurer les temples, encore, qu'on appelle l'anastylose, qui consiste en gros à les démonter complètement pour les reconstruire totalement sur une base assainie. Donc, des points positifs. Et il se trouve qu'à l'issue de toute cette longue histoire plutôt positive, en 1936, il y a des fragments de ce monument qu'on ne peut pas remonter. Et on va décider d'en envoyer un à Phnom Penh, au musée national du Cambodge, qui est le Louvre du Cambodge, d'une certaine manière, et le deuxième, au musée Guimet, en fait, en témoignage de la restauration qui a été entreprise par les Féaux.
Donc, ça voudrait dire que, à partir d'un acte délictueux, André Malraux retourne la situation en disant « Mais ça, ce temple-là, vous le connaissiez pas, moi je l'ai trouvé, et grâce à moi, on a des pièces, on a découvert des choses, et on comprend peut-être mieux pourquoi cet homme-là a réussi finalement à être ministre de la Culture. » Parce que quand on raconte cette histoire, et qu'on se souvient que non seulement il était ministre de la Culture, mais le plus célèbre de la Ve République avec Jack Lang, on se dit « C'est pas normal ». Mais là, on comprend peut-être. Est-ce que c'est le fait qu'il... D'ailleurs, il a demandé, il a dit... il est allé en cassation pour dire, dites donc, moi j'ai découvert, ça m'appartient.
Oui. Bon, il avait une part de comédien en lui, hein. C'est certain. C'est un homme qui sait rebondir. D'abord, c'est pas lui qui l'a découvert. Bon, il a été découvert en 1914 par le lieutenant Marais, qu'on connaît très bien les circonstances. C'est un petit monument qui était effectivement perdu dans la forêt, caché sous les arbres. Mais depuis 1914, on sait qu'il existe. Il a déjà été publié deux fois, en 1916, 1919. Mais il faut avouer que je pense qu'il y a quelque chose qui va beaucoup aider Malraux, c'est la guerre.
C'est bien sûr.
Le phénomène de la guerre.
Les brigades internationales, l'Espagne, voilà, tout ça, voilà, bien sûr.
Qui va faire qu'on va oublier tout ça, et à vrai dire, après la guerre, il ne fallait pas prononcer ces syllabes, Bante Israël, à André Malraux. C'était vraiment quelque chose qui le mettait en rage, et donc il a totalement, bien sûr, souhaité gommer cette histoire. C'est évident pour quelqu'un qui va devenir non seulement ministre de la Culture, mais surtout le premier ministre de la Culture. C'est lui qui fonde le ministère, en fait.
Oui. Bien que Jean Zay était avant lui, oui, ministre de l'Éducation,
voilà,
et des Arts,
voilà,
et que son œuvre soit énorme.
Bien sûr.
On lui a rendu hommage à l'affaire sensible la semaine dernière. Enfin, pour recevoir un laissez-passer du ministère des Colonies, Malraux avait obtenu, il a obtenu une lettre de recommandation d'un conservateur du musée Guimet. Est-ce si facile, même quand on s'appelle pas Indiana Jones, de passer pour un archéologue?
Alors, d'abord, j'aimerais bien avoir cette lettre, parce qu'à vrai dire, moi, j'ai un peu fouillé dans nos archives, on n'en a pas le double. Est-ce qu'il a vraiment eu cette recommandation du musée Guimet? Je sais que c'était un visiteur assidu du musée. On sait qu'il a sollicité l'intervention d'Albert Sarraut, qui était ministre des Colonies, qui avait été gouverneur général de l'Indochine. Donc, c'est quelqu'un qui s'est pratiqué déjà, avant la lettre, le lobbying, arriver à ses fins. C'est possible. Il se trouve qu'on n'en a pas la trace dans nos propres archives, qui sont plutôt pour ces années-là, 1922-1923, assez complètes. Et il n'en demeure pas moins que quand il arrive au Cambodge, il prétend en tout cas avoir toute la légitimité pour faire ce qu'il souhaite faire, c'est-à-dire de l'archéologie. Mais c'est vrai, vous l'avez bien souligné, Georges Grolier, et puis aussi les membres de l'école française d'Extrême-Orient, le conservateur d'Angkor, et les gens qui travaillent avec lui, Henri Parmentier, Henri Marshall, sentent tout de suite qu'il y a Anguille sous roche, en fait. Il va être surveillé. Il se doute bien qu'il n'a pas le profil du tout du véritable archéologue amateur de terrain et non pas amateur d'art.
France Inter. Affaires sensibles.
Pierre Baptiste, conservateur en chef au Musée national des arts asiatiques Guimet, dites-nous, alors pas dans le détail bien sûr, parce que ça prendrait trop de temps, quelles sont les œuvres emblématiques de l'art khmer? Ce n'est pas un hasard si encore il a des sites archéologiques les plus célèbres du monde, avec la pyramide d'Égypte, tous les amoureux de vieilles pierres ont pour rêve de voir encore. Quelles sont les richesses de cette culture-là?
Oui, ce que vous dites est vrai. Ces richesses sont multiples. Hein. C'est le décor architectural, le décor des temples, la statuaire qui se trouvait à l'intérieur, statuaire de pierre, de bronze essentiellement. Mais il faut savoir que, là encore, Malraux est un peu, pas tout à fait un précurseur, mais presque, en 1922, parce que cet art khmer, il va mettre du temps à être considéré au niveau international comme tel. Il faut pas oublier qu'au 19e siècle, en dehors du monde méditerranéen et d'une certaine forme d'européocentrisme, on considère que les arts plus lointains sont des traditions exotiques qui sont pas loin de l'ethnographie, pour schématiser. Et le Cambodge est totalement là-dedans, en fait. Hein. En 1873-74, quand les premières œuvres khmer arrivent à Paris, avec l'accord du roi du Cambodge, rapportées avec beaucoup de difficultés par Louis de la Porte, qui veut les montrer, les exposer au Louvre, les conservateurs du Louvre n'en veulent pas. Ils répondent ce qu'on dit toujours dans ces cas-là, écoutez, tout ça est très intéressant, mais hélas, nous n'avons pas la place au Louvre pour présenter ses œuvres. Et de la Porte en sera meurtri, parce que pour lui, il l'écrit à l'époque, c'est aussi beau, en effet, comme vous le dites, que l'art de l'Égypte ancienne, de la Grèce, de Rome, etc. Mais ça va mettre beaucoup de temps. C'est assez amusant, d'ailleurs, de voir l'image qu'on a du Cambodge pendant assez longtemps, et notamment à travers les expos coloniales. En 1906, à Marseille, l'exposition coloniale, le pavillon du Cambodge, c'est un petit bâtiment qui n'a pas beaucoup d'ampleur. 1922, la deuxième exposition coloniale qui a lieu à Marseille, le pavillon d'Angkor, la reconstitution d'Angkor Wat, c'est vraiment le chef-d'œuvre de l'exposition. C'est un peu la dimension culturelle du patrimoine colonial français. Donc on voit qu'effectivement, dans le courant des années 20, cet art khmer, la statuaire surtout, les divinités brahmaniques et bouddhiques des 7e au 14e siècle, grosso modo, en pierre et en bronze, sont devenus parmi les grands chefs-d'œuvre du monde.
Et Grolier, justement, dont on a parlé, Georges Grolier, le conservateur d'Angkor, a un rôle important là-dedans.
Oui,
en fait, cet homme, il est vraiment capital.
Oui, à vrai dire, il était directeur des arts cambodgiens. Donc, il a un rôle important dans la protection du patrimoine en général. Mais c'est vrai qu'il va travailler sur cette affaire de concert avec l'École française d'Extrême-Orient et les conservateurs d'Angkor. Hein, lui n'est pas vraiment conservateur d'Angkor. Lui, il est en charge du développement des arts cambodgiens. Ça, c'est une idée qui est née en 1916, née dans la tête d'Albert Sarraut, alors qu'il était gouverneur général de l'Indochine, et qui voulait, en fait, retrouver, d'une certaine manière, redonner aux Cambodgiens, si j'ose dire, d'une part, une certaine conscience de leur propre patrimoine ancien, mais aussi une faculté à s'inspirer de ce patrimoine ancien pour produire des œuvres contemporaines de grande qualité.
Alors, cette culture khmer et les témoignages par les sculptures de cette culture, cette société, elle remonte donc au Moyen Âge, parce qu'il correspond pour nous au Moyen Âge.
Oui, c'est ça. Grosso modo, l'apogée, vraiment les premiers témoignages. Oui. Les premiers témoignages datent des alentours du 5e, 6e siècle de notre ère, pour les plus anciens. Et c'est vrai qu'Angkor ne va faire que croître jusqu'au 13e et 14e siècle, c'est le début de sa chute, en fait, plus ou moins lente. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait certain des modalités exactes de cette chute aujourd'hui encore.
Et est-ce qu'on considère que l'art de cette époque-là, dans ce qui est aujourd'hui le Cambodge, est quand même plus élaboré que l'art des contrées occidentales, dont la nôtre, alors, du Moyen Âge?
Aujourd'hui, on raisonne peut-être moins de cette manière-là. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que à l'apogée, par exemple, à l'époque d'Angkor Wat, justement, au XIIe siècle, personne, j'ai envie de dire en Asie, ne construit de monuments de pierre avec cette ampleur, avec cette noblesse, cette habileté dans la composition d'un tout, d'une architecture qui souvent, moi, m'évoque l'architecture de Versailles, par exemple. Je trouve qu'on retrouve la même noblesse, en fait, le rapport harmonieux entre la nature, le paysage et un monument. Alors là, bien sûr, il ne s'agit pas d'un palais de souverain, hein, c'est un sanctuaire qui était à l'origine un sanctuaire brahmanique consacré à Vishnu, mais il y a cette même grandeur que l'on ne trouve pas dans tant de monuments à travers le monde que ça, à vrai dire.
Il y a eu pour le Cambodge, et on s'en souvient, on est tous à peu près en âge de s'en souvenir, ce grand drame des Khmers rouges dans les années 70. Est-ce que l'art Khmer en a souffert? Comment ça s'est passé à cette époque-là?
Oui, bien sûr, il en a souffert, mais je dirais pas tant que les populations, en fait. Les Khmers rouges ont abandonné le patrimoine, mais ils ont surtout détruit la connaissance du patrimoine. Ils ont détruit la mémoire collective, ils ont assassiné les conservateurs des musées, les archéologues, tous ceux qui pouvaient avoir une connaissance, une forme de savoir qu'ils souhaitaient faire passer, ceux qui ne sont pas parvenus à se cacher. Je me rappelle d'un ancien directeur du musée national de Phnom Penh qui me racontait, que j'ai connu au début de ma carrière, et qui me racontait avoir été sauvé en fait de ces massacres en 1975 par le fait que il soit sorti en courant du musée, il ait jeté ses lunettes par devant lui et il s'est jeté dans la boue d'un caniveau et il a frotté les mains en fait dans la boue pour que les Khmers rouges voient que
c'était pas un intellectuel.
Ça n'était pas un intellectuel, mais en plus un homme qui travaillait de ses mains. Il a été sauvé de cette manière. Le patrimoine, en revanche, il a été abandonné, méprisé, mais il est resté en sommeil, en fait. Le vrai drame, c'est plutôt à la fin de cette période dramatique, au moment du tout début de la réouverture du pays, les pillards qui vont se jeter dans la brèche pour profiter du chaos dans lequel se trouve le Cambodge et aller rechercher des œuvres, un peu comme l'avait fait Malraux en 1923.
Oui, mais en pire, hein, en bien pire.
Bien sûr.
Bien sûr.
Et avec des moyens beaucoup plus considérables aussi.
Le musée Guimet organise une soirée consacrée à André Malraux le 22 novembre, vous confirmez, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, ça sera une soirée autour de Malraux et le Japon, puisque Malraux a rédigé de très nombreuses pensées, en fait, autour des arts de l'Asie, et ça fait partie peut-être des éléments très forts pour nous, parce que je crois qu'il fait partie de ces personnes qui ont réussi à sortir les arts de l'Asie, le brahmanisme, le bouddhisme, etc., de domaines qui étaient purement réservé aux orientalistes, aux grands chercheurs de ces questions-là, en fait, pour en faire des questions universelles. Et c'est ça l'aspect assez extraordinaire d'André Malraux.
Alors, il y a eu André Malraux comme ministre de la Culture, important sous la Ve, et bien sûr, Jack Lang.
Bien sûr.
Comment est-il œuvré sur ce terrain-là, lui?
Jack Lang?
Oui. Rien spécial ou...
D'abord, si, bien sûr. Je pense que le musée Guimet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Jack Lang, parce que nous avons bénéficié du sillage extraordinaire qu'il a tracé avec la création d'abord du Grand Louvre, grâce à François Mitterrand, et toute la modernisation des musées nationaux qui s'est faite dans sa foulée.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier. Pierre-Baptiste, merci beaucoup. Au revoir.
Merci, c'est moi. Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Malraux pire le temps, en plus d'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.